Journal présenté par Mathieu Laurent. Bonjour Mathieu.
Bonjour Olivia et bonjour à toutes et tous. Au sommaire de cette édition, les intempéries dans le sud-est de la France et le nord-ouest de l'Italie, au moins 25 personnes portées disparues et des dégâts considérables. Notre envoyé spécial Justine Leclerc vient tout juste de gagner le village de Breil-sur-Roya. Les combats au Nagorno-Karabakh, lourde offensive azerbaïdjanaise selon les autorités arméniennes, nous ferons le point avec Thomas Giraudeau. Le dernier bulletin de santé de Donald Trump, positif au coronavirus et hospitalisé depuis hier soir, son médecin se dit, je cite, « extrêmement satisfait de ses progrès ». Nous entrerons dans le détail avec Loïc Loury à Washington. Enfin, les arrestations cette semaine en Belgique de trois hommes suspectés d'avoir pris part au génocide rwandais, précision de Lakshmi Lotha. À l'isolement, mais pas un cas isolé. La Maison Blanche accumule en effet un certain nombre de cas de coronavirus. La liste des proches de Donald Trump infectés s'allonge tandis que tourne en boucle sur les réseaux sociaux les images de la réception donnée samedi dernier dans les jardins et salons intérieurs de la présidence pour la nomination de la juge Amy Coney Barrett. Un siège de la Cour suprême, quantité de mains serrées et d'embrassades, la plupart des invités omettant le port du masque. Et quel bulletin de santé pour le président sortant à un mois des élections. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir Mathieu.
Vous êtes en direct de Washington. Loïc, quelles sont les dernières informations livrées par les médecins de Donald Trump ?
Eh bien, ce matin, il allait très bien. Voilà ce qu'a expliqué il y a quelques instants le médecin de Donald Trump, Sean Conley, dont l'équipe a donné des précisions sur son état de santé. Ainsi, pour ce qui est des symptômes, il comprenait hier tout, congestion nasale et fatigue, mais ça s'améliore. La fièvre a disparu, affirment les médecins, qui se disent prudemment optimistes tout en restant relativement vagues. Donald Trump est surveillé de près pour toute complication, assure-t-il. Il n'est actuellement pas sous oxygène. Sean Conley a dû le répéter face à l'insistance des journalistes. Voilà le bilan. En gros, après une première nuit à l'hôpital Walter Reed, le médecin réaffirme qu'il s'agit d'une hospitalisation par précaution. Donald Trump, lui, reste presque muet. Il ne s'est exprimé que deux fois sur Twitter en 24 heures environ, à chaque fois pour affirmer qu'il allait bien. Rappelons que nous sommes à un mois exactement de la présidentielle.
Et oui, Loïc, vous nous confirmez bien, y compris que l'entourage de Donald Trump n'est pas indemne.
Oui, absolument. Un cluster Maison Blanche qui commence à prendre de l'ampleur. L'épouse du président, bien sûr, Melania, le directeur de campagne de Donald Trump, Bill Stepien, sans compter trois sénateurs républicains, la patronne du comité national du parti ou encore la médiatique Kellyanne Conway. Ils ont tous été contaminés et la liste continue ce matin de s'allonger. Alors impossible, évidemment, d'affirmer comment le président a contracté le virus, mais depuis hier, vous en parliez, des images circulent, celles d'une réception donnée à la Maison Blanche pour la nomination d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême, des embrassades, des accolades, des poignées de main dans les jardins, mais surtout à l'intérieur de la résidence présidentielle, souvent sans masque. Ce masque que Donald Trump longtemps a tout simplement refusé de porter. Visiblement, les réticences du président ont inspiré son camp et pas pour le meilleur.
Merci à vous, Loïc Loury, non pas en direct de Washington, car vous êtes basé en ce moment même à New York. Merci à vous. De violents combats opposent Arméniens et Azerbaïdjanais sur la majeure partie du front du Nagorno-Karabakh. Les autorités d'Yerevan assurent que Bakou a lancé une grande offensive au 7e jour de la reprise des hostilités. Le comité international de la Croix-Rouge s'inquiète bien sûr du sort des civils pris entre deux feux. Et bonsoir Thomas Giraudeau.
Bonsoir.
Et le premier ministre arménien multiplie les déclarations empreintes de gravité.
L'Arménie fait face au moment peut-être le plus décisif de son histoire. Discours très solennel à la télévision du premier ministre arménien en milieu d'après-midi. Certainement une des prises de parole les plus patriotiques depuis l'indépendance de l'Arménie il y a presque 30 ans. C'est en tout cas ce que pense Gaïds Minassian. Il est enseignant à Sciences Po et spécialiste du Caucase du Sud.
L'intervention du Premier ministre Nicole Pachinian est à l'image de ce qui se passe, c'est-à-dire un moment grave qui dépasse la question du Karabakh, où les combats sont intensifs depuis ce matin. Lui, il parle d'une menace de génocide à nouveau à l'encontre du peuple arménien, et il appelle donc l'ensemble des Arméniens à faire comprendre qu'il n'y aura pas de deuxième génocide et qu'il n'y a pas d'autre alternative que de gagner.
Des propos martiaux et de chefs de guerre, on est loin donc de la désescalade et d'un cessez-le-feu entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises, appelées de leur vœu par Moscou, Washington, Paris et par l'ONU. En témoigne l'intensification des combats ce samedi. Chacun des deux camps, Erevan d'un côté, Bakou de l'autre, a pour l'instant intérêt à poursuivre le conflit selon Gaïds Minassian.
Il y a une volonté d'être en meilleure position pour s'asseoir à la table des négociations si elle recommence. Et donc les Azerbaïdjanais ont besoin de percer les lignes, les Arméniens ont besoin de contenir, voire de contre-attaquer. Seule la réalité du terrain décidera de ce qui se passera, soit autour d'une table, soit malheureusement sur la ligne de front.
Et les positions de part et d'autre semblent irréconciliables. Ton martial, victoire indispensable côté arménien. Et en face, le président azerbaïdjanais prêt à poursuivre les combats tant que les forces arméniennes ne se seront pas retirées.
Merci à vous Thomas Giraudot. Au moins 15 personnes, principalement des civils, ont été tuées et plus de 40 blessés dans un attentat au camion piégé qui a ciblé ce samedi un bâtiment administratif dans l'est de l'Afghanistan. Trois personnes suspectées d'avoir pris part au génocide rwandais en 1994 ont été arrêtées et inculpées cette semaine en Belgique. Information que l'on doit au parquet fédéral belge ainsi qu'au parquet rwandais. Les trois suspects ont financé le génocide, œuvré à l'exclusion du système scolaire des Tutsis ou encore dirigé une milice interarmouée. Les précisions à Bruxelles de Lakshmi Lotha.
Ils ont été arrêtés mardi et mercredi à Bruxelles et dans le Hainaut. Deux d'entre eux ont été incarcérés, le troisième porte un bracelet électronique. Tous trois sont inculpés de violations graves du droit international humanitaire. Les suspects ont été confondus par une quarantaine de témoins au Rwanda dans le cadre de l'enquête belge. Selon le journal Le Vif, il s'agirait de Pierre Bassabossé, proche du cercle de l'ancien président Habyarimana, de Séraphin Touahiroua et de Christophe Dangali. Le renvoi éventuel de ces suspects devant une cour d'assises belge sera déterminé sur la base du dossier présenté par le juge d'instruction et le parquet. Cinq procès liés au génocide ont déjà été organisés en Belgique. La dernière condamnation en date concerne l'ancien haut fonctionnaire rwandais Fabien Néretsé. Il a été condamné en décembre dernier à 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes de génocide.
Un sursis pour Matteo Salvini qui a mobilisé ses troupes à Catane en Sicile. Une nouvelle audience est prévue dans un mois et demi alors que celui qui était ministre de l'Intérieur risque 15 ans de prison, rappelons-le, pour abus de pouvoir et séquestration de personnes. Il avait en effet refusé le débarquement d'un navire avec 131 migrants en Sicile l'été 2019. Le patron de la Ligue a profité de cette audience pour en faire une tribune politique. C'est un reportage à Catane de Bruce de Galzin.
Ce sont d'abord les quelques opposants à Matteo Salvini qui se sont fait entendre ce matin, non loin du tribunal, comme Giulio, 72 ans.
Quello è una persona ignobile.
C'est quelqu'un d'ignoble, de dangereux. Il crée un climat de violence, il ne pense qu'à lui. Moi j'ai arrêté les débarquements de navires. Mais quand il est devant le juge, il ne répond pas aux questions comme les mafieux.
Come i veri mafiosi.
L'audience a duré plus de 3 heures et finalement, il y en aura une autre. Pour les militants de la Ligue, Matteo Salvini a pourtant fait ce qu'il fallait. Daniela est venue de Rome.
Il a fait ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai voté pour lui. C'est ce en quoi je crois. Donc s'il lui faut un procès, qu'il me le fasse aussi. Ça vient du cœur. Il me représente entièrement.
Devant la scène, montée sur un grand parking, il n'y a pas vraiment foule. Mais Davide a fait le voyage de Bulgarie, où il est coordinateur de la Ligue.
Il faut confronter les deux parties. Ce serait normal qu'on puisse entendre ce que pensent les autres. Le président du Conseil a déclaré qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait. Je pense que ce n'est pas vrai.
Davide sera exaucé, puisque Giuseppe Conte et d'autres ministres en poste, au moment des faits, seront entendus par le juge le 20 novembre prochain.
Les crues dans les Alpes-Maritimes à Nice, le Premier ministre déclare « Nous sommes sans nouvelles de très nombreuses personnes et je ne cache pas notre vive inquiétude sur le plan définitif de cet épisode ». Fin citation. Bilan humain très délicat à établir, une certitude quelques heures après ces intempéries qui se sont abattues dans les Alpes-Maritimes. Les dégâts sont considérables, quantité de villages, de hameaux sont coupés du monde. Notre envoyé spécial Justine Leclerc a pu joindre il y a peu Breil-sur-Roya.
Ici à Breil, la situation est délicate. Le pont qui sépare le village est quasiment inaccessible, seulement pour les grosses nécessités, parce qu'en fait, il a été fragilisé. On entend encore beaucoup le débit de l'eau, qui est très important. On voit des voitures qui sont retournées sur le côté, dans le lit, justement, du fleuve Roya, et puis des habitants désabusés qui regardent un peu tout ça.
Je trouve que ça a été un désastre monumental, hein. Depuis 1963 que je suis à Breil, il n'y a jamais vu une chose pareille.
Le village est vraiment coupé du monde. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseau téléphonique. Du coup, c'est la mairie qui fait des distributions et qui va à la rencontre des habitants.
Je vous vous donne une bouteille chacun, donc une bouteille par famille.
Est-ce que vous savez s'ils mettent l'eau ?
L'électricité.
Ah, pour l'instant, il y a des groupes d'Enedis qui sont en train de travailler sur le rétablissement de l'électricité. Mais malheureusement, ça va prendre un petit peu de temps. Donc il va falloir être patient.
À Breil-sur-Roya, deux maisons ont été détruites, plusieurs voitures emportées par les eaux. Les secours recherchent toujours d'éventuelles victimes.
Un reportage de Justine Leclerc dans la région voisine du Piémont, au nord de l'Italie. Les inondations ont fait 2 morts et 16 disparus selon un dernier bilan. Le temps restera perturbé demain dimanche selon Météo France avec un ciel chargé et de fréquentes pluies. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet, à la technique Ludovic Auger.